Le 1er janvier me fut particulièrement douloureux cette année-là. Tous les sans doute qui fait date et anniversaire quand on est malheureux. Mais si c'est par exemple d'avoir perdu un être cher, la souffrance consiste seulement dans une comparaison plus vive avec le passé. Il s'y ajoutait dans mon cas l'espoir informulé que Gilberte, ayant voulu me laisser l'initiative des premiers pas et constatant que je ne les avais pas faits, n'avait attendu que le prétexte du 1er janvier pour m'écrire. « Enfin, qu'y a-t-il ? Je suis folle de vous. Venez que nous nous expliquions franchement. Je ne peux pas vivre sans vous voir. » Dès les derniers jours de l'année, cette lettre me parut probable. Elle ne l'était peut-être pas, mais pour que nous la croyions telle, le désir, le besoin que nous en avons suffit. Le soldat est persuadé qu'un certain délai indéfiniment prolongeable lui sera accordé avant qu'il soit tué, le voleur avant qu'il soit pris, les hommes en général avant qu'ils aient à mourir. C'est là l'amulette qui préserve les individus, et parfois les peuples, non du danger, mais de la peur du danger, en réalité de la croyance au danger, ce qui, dans certains cas, permet de les braver sans qu'il soit besoin d'être brave. Une confiance de ce genre est aussi peu fondée, soutient l'amoureux qui compte sur une réconciliation, sur une lettre. Pour que je n'eusse pas attendu celle-là, il eût suffi que j'eusse cessé de la souhaiter. Si indifférent qu'on sache que l'on est à celle qu'on aime encore, on lui prête une série de pensées, fussent-elles d'indifférence, une intention de les manifester, une complication de vie intérieure, où l'on est l'objet peut-être d'une antipathie, mais aussi d'une attention permanente. Pour imaginer au contraire ce qui se passait en Gilberte, il eût fallu que je pusse tout simplement anticiper dès ce 1er janvier-là ce que j'eusse ressenti celui d'une des années suivantes, et où l'attention, ou le silence, ou la tendresse, ou la froideur de Gilberte, eusse passé à peu près inaperçu à mes yeux, et où je n'eusse pas songé, pas même pu songer à chercher la solution de problèmes qui auraient cessé de se poser pour moi. Quand on aime, l'amour est trop grand pour pouvoir être contenu tout entier en nous. Il irradie vers la personne aimée, rencontre en elle une surface qui l'arrête, le force à revenir vers son point de départ, et c'est ce choc en retour de notre propre tendresse que nous appelons les sentiments de l'autre, et qui nous charme plus qu'à l'aller parce que nous ne reconnaissons pas qu'elle vient de nous. Le 1er janvier sonna toutes ces heures sans qu'arrivât cette lettre de Gilberte. Et comme j'en reçus quelques-unes de vœux tardifs ou retardés par l'encombrement des courriers à ces dates-là, le 3 et le 4 janvier, j'espérais encore, de moins en moins pourtant. Les jours qui suivirent, je pleurais beaucoup. Certes, cela tenait à ce qu'ayant été moins sincère que je ne l'avais cru quand j'avais renoncé à Gilberte, j'avais gardé cet espoir d'une lettre d'elle pour la nouvelle année. Et le voyant épuisé avant que j'eusse eu le temps de me précautionner d'un autre, je souffrais comme un malade qui a vidé sa fiole de morphine sans en avoir sous la main une seconde. Mais peut-être en moi, et ces deux explications ne s'excluent pas car un seul sentiment est quelquefois fait de contraire, l'espérance que j'avais de recevoir enfin une lettre avait-elle rapproché de moi l'image de Gilberte, recréé les émotions que l'attente de me trouver près d'elle, sa vue, sa manière d'être avec moi, me causait autrefois. La possibilité immédiate d'une réconciliation avait supprimé cette chose de l'énormité de laquelle nous ne nous rendons pas compte, la résignation. Les neurasthéniques ne peuvent croire les gens qui leur assurent qu'ils seront peu à peu calmés en restant au lit sans recevoir de lettres, sans lire de journaux. Ils se figurent que ce régime ne fera qu'exaspérer leur nervosité. De même, les amoureux, le considérant du sein d'un état contraire, n'ayant pas commencé de l'expérimenter, ne peuvent croire à la puissance bienfaisante du renoncement. À cause de la violence de mes battements de cœur, on me fit diminuer la caféine. Ils cessèrent. Alors je me demandais si ce n'était pas un peu à elle qu'était due cette angoisse que j'avais éprouvée quand je m'étais à peu près brouillée avec Gilberte et que j'avais attribuée, chaque fois qu'elle se renouvelait, à la souffrance de ne plus voir mon ami ou de risquer de ne la voir qu'en proie à la même mauvaise humeur. Mais si ce médicament avait été à l'origine des souffrances que mon imagination eût alors faussement interprétées, ce qui n'aurait rien d'extraordinaire, les plus cruelles peines morales ayant souvent pour cause chez les amants l'habitude physique de la femme avec qui ils vivent, c'était à la façon du filtre qui, longtemps après avoir été absorbé, continue à lier Tristan à Iseux. Car l'amélioration physique que la diminution de la caféine amena presque immédiatement chez moi n'arrêta pas l'évolution du chagrin que l'absorption du toxique avait peut-être sinon créé, du moins su rendre plus aigu. Seulement, quand le milieu du mois de janvier approcha, une fois déçues mes espérances d'une lettre pour le jour de l'an, et la douleur supplémentaire qui avait accompagné leur déception une fois calmée, ce fut mon chagrin d'avant les fêtes qui recommença. Ce qu'il y avait peut-être encore en lui de plus cruel, c'est que j'en fusse moi-même l'artisan conscient, volontaire, impitoyable et patient. La seule chose à laquelle je tinsse, mes relations avec Gilberte, c'est moi qui travaillais à les rendre impossibles en créant peu à peu, par la séparation prolongée d'avec mon ami, non pas son indifférence, mais ce qui reviendrait finalement au même, la mienne. C'était à un long et cruel suicide du moi qui en moi-même aimait Gilberte que je m'acharnais avec continuité, avec la clairvoyance non seulement de ce que je faisais dans le présent, mais de ce qui en résulterait pour l'avenir. Je savais non pas seulement que dans un certain temps je n'aimerais plus Gilberte, mais encore qu'elle-même le regretterait, et que les tentatives qu'elle ferait alors pour me voir seraient aussi vaines que celles d'aujourd'hui, non plus parce que je l'aimerais trop, mais parce que j'aimerais certainement une autre femme que je resterais à désirer, à attendre pendant des heures dont je n'oserais pas distraire une parcelle pour Gilberte qui ne me serait plus rien. Et sans doute, en ce moment même où, puisque j'étais résolue à ne plus la voir, à moins d'une demande formelle d'explication, d'une complète déclaration d'amour de sa part, lesquelles n'avaient plus aucune chance de venir, j'avais déjà perdu Gilberte et l'aimais davantage. Je sentais tout ce qu'elle était pour moi mieux que l'année précédente quand, passant tous mes après-midi avec elle, selon que je voulais, je croyais que rien ne menaçait notre amitié. Sans doute en ce moment, l'idée que j'éprouverais un jour les mêmes sentiments pour une autre m'était odieuse, car cette idée m'enlevait outre Gilberte mon amour et ma souffrance. Mon amour, ma souffrance, où, en pleurant, j'essayais de saisir justement ce qu'était Gilberte, et desquels il me fallait reconnaître qu'il ne lui appartenait pas spécialement, et serait tôt ou tard le lot de telle ou telle femme. De sorte, c'était toujours alors ma manière de penser, qu'on est toujours détaché des êtres. Quand on aime, on sent que cet amour ne porte pas leur nom, pourra dans l'avenir renaître, aurait même pu dans le passé naître pour une autre et non pour celle-là. Et dans le temps où l'on n'aime pas, si l'on prend philosophiquement son parti de ce qu'il y a de contradictoire dans l'amour, c'est que cet amour dont on parle à son aise, on ne l'éprouve pas alors, donc on ne le connaît pas, la connaissance en ces matières étant intermittente et ne survivant pas à la présence effective du sentiment. Cet avenir où je n'aimerais plus Gilberte et que ma souffrance m'aidait à deviner sans que mon imagination pût encore se le représenter clairement, certes, il eût été temps encore d'avertir Gilberte qu'il se formerait peu à peu, que sa venue était, sinon imminente, du moins inéluctable, si elle-même, Gilberte, ne venait pas à mon aide et ne détruisait pas dans son germe ma future indifférence. Combien de fois ne fus-je pas sur le point d'écrire ou d'aller dire à Gilberte « Prenez garde, j'en ai pris la résolution. La démarche que je fais est une démarche suprême. Je vous vois pour la dernière fois. Bientôt, je ne vous aimerai plus. » À quoi bon ? De quel droit eussé-je reproché à Gilberte une indifférence que, sans me croire coupable pour cela, je manifestais à tout ce qui n'était pas elle ? La dernière fois. À moi, cela me paraissait quelque chose d'immense parce que j'aimais Gilberte. À elle, cela lui eût fait sans doute autant d'impression que ses lettres où des amis nous demandent à nous faire une visite avant de s'expatrier, visite que, comme aux ennuyeuses femmes qui nous aiment, nous leur refusons parce que nous avons des plaisirs devant nous. Le temps dont nous disposons chaque jour est élastique. Les passions que nous ressentons le dilatent, celles que nous inspirons le rétrécissent, et l'habitude le remplit. D'ailleurs, j'aurais eu beau parler à Gilberte, elle ne m'aurait pas entendue. Nous nous imaginons toujours, quand nous parlons, que ce sont nos oreilles, notre esprit qui écoutent. Mes paroles ne seraient parvenues à Gilberte que déviées, comme si elles avaient eu à traverser le rideau mouvant d'une cataracte avant d'arriver à mon ami, méconnaissable, rendant un son ridicule, n'ayant plus aucune espèce de sens. La vérité qu'on met dans les mots ne se ferait pas son chemin directement, n'est pas douée d'une évidence irrésistible. Il faut qu'assez de temps passe pour qu'une vérité de même ordre ait pu se former en eux. Alors, l'adversaire politique qui, malgré tous les raisonnements et toutes les preuves, tenait le sectateur de la doctrine opposée pour un traître, partage lui-même la conviction détestée à laquelle celui qui cherchait inutilement à la répandre ne tient plus. Alors le chef-d'œuvre qui, pour les admirateurs qui le lisaient haut, semblait montrer en soi les preuves de son excellence et n'offrait à ceux qui écoutaient qu'une image insane ou médiocre, sera par eux proclamé chef-d'œuvre trop tard pour que l'auteur puisse l'apprendre. Pareillement, en amour, les barrières, quoi qu'on fasse, ne peuvent être brisées du dehors par celui qu'elle désespère. Et c'est quand il ne se souciera plus d'elle que tout à coup, par l'effet du travail venu d'un autre côté, accompli à l'intérieur de celle qu'il n'aimait pas, ces barrières, attaquées jadis sans succès, tomberont sans utilité. Si j'étais venue annoncer à Gilberte mon indifférence future et le moyen de la prévenir, elle aurait induit de cette démarche que mon amour pour elle, le besoin que j'avais d'elle, était encore plus grand qu'elle n'avait cru, et son ennui de me voir en eût été augmenté. Et il est bien vrai, du reste, que c'est cet amour qui m'aidait, par les états d'esprit disparates qu'il faisait se succéder en moi, à prévoir mieux qu'elle la fin de cet amour. Pourtant, un tel avertissement, je l'eusse peut-être adressé par lettre ou de vive voix à Gilberte, quand assez de temps eut passé, me la rendant ainsi, il est vrai, moins indispensable, mais aussi ayant pu lui prouver qu'elle ne me l'était pas. Malheureusement, certaines personnes bien ou mal intentionnées lui parlèrent de moi d'une façon qui dut lui laisser croire qu'elle le faisait à ma prière. Chaque fois que j'appris ainsi que Cottard, ma mère elle-même et jusqu'à M. de Norpois avaient, par de maladroites paroles, rendu inutile tout le sacrifice que je venais d'accomplir, gâché tout le résultat de ma réserve en me donnant faussement l'air d'en être sorti, j'avais un double ennui. D'abord, je ne pouvais plus faire dater que de ce jour-là ma pénible et fructueuse abstention que les fâcheux avaient à mon insu interrompue et, par conséquent, annihilée. Mais, de plus, j'eusse eu moins de plaisir à voir Gilberte qui me croyait maintenant non plus dignement résignée, mais manœuvrant dans l'ombre pour une entrevue qu'elle avait dédaigné d'accorder. Je maudissais ces vains bavardages de gens qui, souvent, sans même l'intention de nuire ou de rendre service, pour rien, pour parler, quelquefois parce que nous n'avons pas pu nous empêcher de le faire devant eux et qu'ils sont indiscrets, comme nous, nous causent à point nommé tant de mal. Il est vrai que dans la funeste besogne accomplie pour la destruction de notre amour, ils sont loin de jouer un rôle égal à deux personnes qui ont pour habitude, l'une par excès de bonté et l'autre de méchanceté, de tout défaire au moment que tout allait s'arranger. Mais ces deux personnes-là, nous ne leur en voulons pas comme aux inopportuns Cottard, car la dernière, c'est la personne que nous aimons, et la première, c'est nous-mêmes. Cependant, comme presque chaque fois que j'allais la voir, Madame Swann m'invitait à venir goûter avec sa fille et me disait de répondre directement à celle-ci, j'écrivais souvent à Gilberte et dans cette correspondance je ne choisissais pas les phrases qui eussent pu, me semblait-il, la persuader. Je cherchais seulement à frayer le lit le plus doux au ruissellement de mes pleurs. Car le regret, comme le désir, ne cherche pas à s'analyser, mais à se satisfaire. Quand on commence d'aimer, on passe le temps non à savoir ce qu'est son amour, mais à préparer les possibilités des rendez-vous du lendemain. Quand on renonce, on cherche non à connaître son chagrin, mais à offrir de lui à celle qui le cause l'expression qui nous paraît la plus tendre. On dit les choses qu'on éprouve le besoin de dire et que l'autre ne comprendra pas. On ne parle que pour soi-même. J'écrivais « J'avais cru que ce ne serait pas possible. Hélas, je vois que ce n'est pas si difficile. » Je disais aussi « Je ne vous verrai probablement plus. » Je le disais en continuant à me garder d'une froideur qu'elle eût pu croire affectée, et ces mots, en les écrivant, me faisaient pleurer parce que je sentais qu'ils exprimaient non ce que j'aurais voulu croire, mais ce qui arriverait en réalité. Car à la prochaine demande de rendez-vous qu'elle me ferait adresser, j'aurais encore, comme cette fois, le courage de ne pas céder et, de refus en refus, j'arriverais peu à peu au moment où, à force de ne plus l'avoir vue, je ne désirerais pas la voir. Je pleurais, mais je trouvais le courage, je connaissais la douceur de sacrifier le bonheur d'être auprès d'elle à la possibilité de lui paraître agréable un jour où, hélas, lui paraître agréable me serait indifférent. L'hypothèse même, pourtant si peu vraisemblable qu'en ce moment, comme elle l'avait prétendu pendant la dernière visite que je lui avais faite, elle m'aima, que ce que je prenais pour l'ennui qu'on éprouve auprès de quelqu'un dont on est là ne fût dû qu'à une susceptibilité jalouse, à une feinte d'indifférence analogue à la mienne, ne faisait que rendre ma résolution moins cruelle. Il me semblait alors que, dans quelques années, après que nous nous serions oubliés l'un l'autre, quand je pourrais rétrospectivement lui dire que cette lettre qu'en ce moment j'étais en train de lui écrire n'avait été nullement sincère, elle me répondrait « Comment ? Vous ? Vous m'aimiez ? Si vous saviez comme je l'attendais cette lettre, comme j'espérais un rendez-vous, comme elle me fit pleurer !» La pensée, pendant que je lui écrivais, aussitôt rentrée de chez sa mère, que j'étais peut-être en train de consommer précisément ce malentendu-là, cette pensée, par sa tristesse même, par le plaisir d'imaginer que j'étais aimée de Gilberte, me poussait à continuer ma lettre. Si, au moment de quitter Madame Swann, quand son thé finissait, je pensais à ce que j'allais écrire à sa fille, Madame Cottard, elle, en s'en allant, avait eu des pensées d'un caractère tout différent. Faisant sa petite inspection, elle n'avait pas manqué de féliciter Madame Swann sur les meubles nouveaux, les récentes acquisitions remarquées dans le salon. Elle pouvait d'ailleurs y retrouver, quoiqu'en bien petit nombre, quelques-uns des objets qu'Odette avait autrefois dans l'hôtel de la rue La Pérouse, notamment ses animaux en matière précieuse, ses fétiches. Mais Madame Swann, ayant appris d'un ami qu'elle vénérait le mot tocard, lequel lui avait ouvert de nouveaux horizons, parce qu'il désignait précisément les choses que quelques années auparavant elle avait trouvées chic, toutes ces choses-là, successivement, avaient suivi dans leur retraite le treillage doré qui servait d'appui aux chrysanthèmes, maintes bonbonnières de chez Giroux et le papier à lettres à couronne, pour ne pas parler des louis en carton semés sur les cheminées et que, bien avant qu'elle connût Swann, un homme de goût lui avait conseillé de sacrifier. D'ailleurs, dans le désordre artiste, dans le pêle-mêle d'atelier, des pièces au mur encore peintes de couleurs sombres qui les faisaient aussi différentes que possible des salons blancs que Madame Swann eut un peu plus tard, l'Extrême-Orient reculait de plus en plus devant l'invasion du XVIIIe siècle, et les coussins que, afin que je fusse plus confortable, Madame Swann entassait et pétrissait derrière mon dos, étaient semés de bouquets Louis XV, et non plus comme autrefois de dragons chinois. Dans la chambre où on la trouvait le plus souvent et dont elle disait « Oui, je l'aime assez, je m'y tiens beaucoup, je ne pourrais pas vivre au milieu de choses hostiles et pompiers, c'est ici que je travaille. » Sans d'ailleurs préciser si c'était à un tableau, peut-être à un livre, Le goût d'en écrire commençait à venir aux femmes qui aiment à faire quelque chose et à ne pas être inutiles. Elle était entourée de saxes, aimant cette dernière sorte de porcelaine, dont elle prononçait le nom avec un accent anglais, jusqu'à dire à propos de tout « C'est joli, cela ressemble à des fleurs de saxe ». Elle redoutait pour eux, plus encore que jadis pour ses magots et ses potiches, le toucher ignorant des domestiques, auxquels elle faisait expier les transes qu'ils lui avaient données, par des emportements auxquels Swann, maître si poli et si doux, assistait sans en être choqué. La vue lucide de certaines infériorités n'ôte d'ailleurs rien à la tendresse. Celle-ci les fait au contraire trouver charmantes. Maintenant, c'était plus rarement dans des robes de chambre japonaises qu'Odette recevait ses intimes, mais plutôt dans les soies claires et mousseuses de peignoirs Watteau, dès qu'elle faisait le geste de caresser sur ses seins l'écume fleurie, et dans lesquelles elle se baignait, se prélassait, s'ébattait, avec un tel air de bien-être, de rafraîchissement de la peau et des respirations si profondes, qu'elle semblait les considérer non pas comme décoratives à la façon d'un cadre, mais comme nécessaires de la même manière que le tub et le footing pour contenter les exigences de sa physionomie et les raffinements de son hygiène. Elle avait l'habitude de dire qu'elle se passerait plus aisément de pain que d'art et de propreté, et qu'elle eût été plus triste de voir brûler la Joconde que des foultitudes de personnes qu'elle connaissait. Théorie qui semblait paradoxale à ses amis, mais la faisait passer pour une femme supérieure auprès d'elle et lui valait une fois par semaine la visite du ministre de Belgique, de sorte que dans le petit monde dont elle était le soleil, chacun eût été bien étonné si l'on avait appris qu'ailleurs, chez les Verdurin par exemple, elle passa pour bête. À cause de cette vivacité d'esprit, Madame Swann préférait la société des hommes à celle des femmes. Mais quand elle critiquait celle-ci, c'était toujours en cocotte, signalant en elle les défauts qui pouvaient leur nuire auprès des hommes, de grosses attaches, un vilain teint, pas d'orthographe, des poils aux jambes, une odeur pestilentielle, de faux sourcils. Pour telle au contraire qui lui avait jadis montré de l'indulgence et de l'amabilité, elle était plus tendre, surtout si celle-là était malheureuse. Elle la défendait avec adresse et disait « On est injuste pour elle, car c'est une gentille femme, je vous assure. » Ce n'était pas seulement l'ameublement du salon d'Odette, c'était Odette elle-même que Madame Cottard et tous ceux qui avaient fréquenté Madame de Crécy auraient eu peine, s'ils ne l'avaient pas vue depuis longtemps, à reconnaître. Elle semblait avoir tant d'années de moins qu'autrefois. Sans doute cela tenait en partie à ce qu'elle avait engraissé, et, devenue mieux portante, avait l'air plus calme, plus frais, plus reposé, et d'autre part à ce que les coiffures nouvelles aux cheveux lissés donnaient plus d'extension à son visage qu'une poudre rose animait, et où ses yeux et son profil, jadis trop saillants, semblaient maintenant résorbés. Mais une autre raison de ce changement consistait en ceci que, arrivée au milieu de la vie, Odette s'était enfin découvert, ou inventé, une physionomie personnelle, un caractère immuable, un genre de beauté. Et sur ses traits décousus, qui pendant si longtemps, livrés aux caprices hasardeux et impuissants de la chair, prenant à la moindre fatigue pour un instant des années, une sorte de vieillesse passagère, lui avait composé tant bien que mal, selon son humeur et selon sa mine, un visage épars, journalier, informe et charmant, avait appliqué ce type fixe comme une jeunesse immortelle. Swann avait dans sa chambre, au lieu des belles photographies qu'on faisait maintenant de sa femme, et où la même expression énigmatique et victorieuse laissait reconnaître, quelles que fussent la robe et le chapeau, sa silhouette et son visage triomphant, un petit daguerréotype ancien, tout simple, antérieur à ce type et duquel la jeunesse et la beauté d'Odette, non encore trouvées par elle, semblaient absentes. Mais sans doute Swann, fidèle ou revenu à une conception différente, goûtait-il dans la jeune femme grêle aux yeux pensifs, au trait là, à l'attitude suspendue entre la marche et l'immobilité, une grâce plus botticellienne. Il aimait encore, en effet, avoir en sa femme un Botticelli. Odette, qui, au contraire, cherchait non à faire ressortir, mais à compenser, à dissimuler ce qui, en elle-même, ne lui plaisait pas, ce qui était peut-être pour un artiste son caractère, mais que, comme femme, elle trouvait des défauts, ne voulait pas entendre parler de ce peintre. Swann possédait une merveilleuse écharpe orientale, bleue et rose, qu'il avait achetée parce que c'était exactement celle de la Vierge du Magnificat. Mais Madame Swann ne voulait pas la porter. Une fois seulement, elle laissa son mari lui commander une toilette toute criblée de pâquerettes, de bleuets, de myosotis et de campanules d'après la primavera du printemps. Parfois, le soir, quand elle était fatiguée, il me faisait remarquer tout bas comme elle donnait, sans s'en rendre compte, à ses mains pensives, le mouvement délié, un peu tourmenté de la Vierge qui trempe sa plume dans l'encrier que lui tend l'ange, avant d'écrire sur le livre saint où est déjà tracé le mot Magnificat. Mais il ajoutait « Surtout ne le lui dites pas, il suffirait qu'elle le sût pour qu'elle fît autrement. » Sauf à ces moments d'involontaire fléchissement où Swann essayait de retrouver la mélancolique cadence botticellienne, le corps d'Odette était maintenant découpé en une seule silhouette, cernée tout entière par une ligne qui, pour suivre le contour de la femme, avait abandonné les chemins accidentés, les rentrants et les sortants factices, les lacis, l'éparpillement composite des modes d'autrefois, mais qui aussi, là où c'était l'anatomie qui se trompait en faisant des détours inutiles en deçà ou au-delà du tracé idéal, savait rectifier d'un trait hardi les écarts de la nature, suppléer, pour toute une partie du parcours, aux défaillances aussi bien de la chair que des étoffes. Les coussins, le strapontin de l'affreuse tournure avaient disparu, ainsi que ces corsages à basques qui, dépassant la jupe et raidie par des baleines, avait ajouté si longtemps à Odette un ventre postiche et lui avait donné l'air d'être composée de pièces disparates qu'aucune individualité ne reliait. La verticale des effilés et la courbe des ruches avaient cédé la place à l'inflexion d'un corps qui faisait palpiter la soie comme la sirène ballonde et donnait à la percaline une expression humaine maintenant qu'il s'était dégagé comme une forme organisée et vivante du long chaos et de l'enveloppement nébuleux des modes détrônés. Mais Madame Swann, cependant, avait voulu, avait su garder un vestige de certaines d'entre elles au milieu même de celles qui les avaient remplacées. Quand, le soir, ne pouvant travailler, étant assurée que Gilberte était au théâtre avec des amis, j'allais à l'improviste chez ses parents, je trouvais souvent Madame Swann dans quelque élégant déshabillé dont la jupe, d'un de ces beaux tons sombres, rouge foncé ou orange, qui avait l'air d'avoir une signification particulière parce qu'il n'était plus à la mode, était obliquement traversé d'une rampe ajourée et large de dentelle noire qui faisait penser au volant d'autrefois. Quand, par un jour encore froid de printemps, elle m'avait, avant ma brouille avec sa fille, emmené au jardin d'acclimatation, sous sa veste qu'elle entr'ouvrait plus ou moins selon qu'elle se réchauffait en marchant, le dépassant d'en-dessi de sa chemisette avait l'air du revers entrevu de quelque gilet absent, pareil à l'un de ceux qu'elle avait porté quelques années plus tôt et dont elle aimait que les bords eussent ce léger déchiquetage. Et sa cravate, de cet écossais auquel elle était restée fidèle, mais en adoucissant tellement les tons, le rouge devenu rose et le bleu lilas, que l'on aurait presque cru à un de ces taffetas gorge de pigeon qui était la dernière nouveauté, était noué de telle façon sous son menton, sans qu'on pût voir où elle était attachée, qu'on pensait invinciblement à ses brides de chapeau qui ne se portaient plus. Pour peu qu'elle sût durer encore quelque temps ainsi, les jeunes gens essayant de comprendre ses toilettes diraient « Madame Swann, n'est-ce pas, c'est toute une époque ?» Comme dans un beau style qui superpose des formes différentes et que fortifie une tradition cachée, dans la toilette de Madame Swann, ses souvenirs incertains de gilets ou de boucles, parfois une tendance aussitôt réprimée au saut en barque, et jusqu'à une allusion lointaine et vague au « Suivez-moi, jeune homme », faisait circuler sous la forme concrète la ressemblance inachevée d'autres plus anciennes qu'on aurait pu y trouver, effectivement réalisées par la couturière ou la modiste, mais auxquelles on pensait sans cesse, et enveloppait Madame Swann de quelque chose de noble, peut-être parce que l'inutilité même de ses atours faisait qu'il semblait répondre à un but plus qu'utilitaire, peut-être à cause du vestige conservé des années passées, ou encore d'une sorte d'individualité vestimentaire particulière à cette femme, et qui donnait à ses mises les plus différentes un même air de famille. On sentait qu'elle ne s'habillait pas seulement pour la commodité ou la parure de son corps. Elle était entourée de sa toilette comme de l'appareil délicat et spiritualisé d'une civilisation.